Très content ce matin de parler de tout ça avec Éric Ouellet, enseignant en sciences politiques au Cégep de la Pocatière. Bon matin, M. Ouellet.
Bon matin, Kevin.
J'imagine que de votre côté, je ne sais pas si vous pensiez voir ça de votre vivant, mais les images qui ont été marquantes mercredi du côté de Washington.
Oui, ben, comment dire, il faut pas non plus être trop naïf. Hein, puis au cours des 4 dernières années, ben, Donald Trump avait quand même bien alimenté, la haine, là, complètement, là, avéré être une quasi-révolution là il y a 2 jours à peu près. Ouais. Mais avec ses commentaires très très direct, avec son caractère polarisant, hein. quand je dis polarisant, c'est que Donald Trump, là, je pense que il y a personne qui peut dire ok, moi Donald Trump, je sais pas, hein. On l'aime ou on l'aime pas, il laisse personne indifférent, puis c'est un provocateur, c'est pas un rassembleur. Donc, ce qui est arrivé mercredi passé, ben, c'est un petit peu le résultat des 4 dernières années, alors qu'il a toujours réussi à alimenter cette base-là, cette base partisane qui a fait en sorte qu'avec son discours de dire carrément d'aller marcher sur le Capitole, ben, les gens l'ont malheureusement écouté.
Ouais, on croyait que ces grandes institutions, ça inclut bien sûr le Capitole, mais il y en a d'autres également, notamment à Washington, que c'était des endroits extrêmement sécurisés, pratiquement impossible d'y pénétrer. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas si difficile.
Ah oui, puis en fait, c'est un caractère quand même mythique, hein? Ouais. La Maison-Blanche, le Capitole, la Cour suprême est à Washington également. Pour les gens qui sont déjà allés à Washington également, la rue qui amène au Capitole, ben, c'est la série de musées de ce qu'on appelle les Smithsonian. Donc, il y a beaucoup de culture, là. Il y a beaucoup d'endroits qui reflètent les valeurs américaines à travers ça. Puis, effectivement, là, la Constitution américaine, c'est quelque chose, le We the People, qui à l'époque avait fait trembler le monde, là, parce qu'auparavant, c'était le droit divin qui marchait. Ça part des États-Unis. Et là, mercredi passé, les gens marchent, rentrent au Capitole sans aucun respect. Je voyais quelqu'un, une Américaine, qui disait « On s'est battu pour empêcher la Confédération lorsqu'il y a eu la guerre de sécession. » Ben, le fameux drapeau des Confédérés, il est rentré au Capitole. C'est une honte en soi, là. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru imaginer. Donc, le fait de voir la population là ou ces gens-là envahir le Capitole, là, c'était quand même une disgrâce. Puis, en même temps, quand on regarde ça vraiment là avec les yeux de la réalité, ben on peut vraiment se poser la question où était la sécurité, pourquoi les policiers n'en ont pas fait plus. Et là, je le dis du bout des lèvres en disant c'est incroyable d'en arriver à penser ainsi. Mais si ça avait été un groupe du Black Lives Matter, est-ce que ça aurait été aussi facile pour eux d'aller au niveau des Afro-Américains et de leurs partisans, d'entrer au Capitole? Ouais. Donc, il y a ces questions-là qui devront être répondues éventuellement, Kevin.
Exactement. Puis, on a même vu des policiers hier dans des images qui ont enlevé les barrières de sécurité pour permettre justement aux manifestants de poursuivre leur route, là.
Oui, c'est ça. Puis, est-ce que ça se serait passé ainsi si ça avait été d'autres types de manifestants? Ouais. Puis, à l'intérieur de ça, soyons honnêtes, Kevin, il y a personne qui pourra, c'est pas vrai, mais il y avait peut-être pas juste des Trumpistes à l'intérieur de ça. Il y avait peut-être des gens là de d'autres organisations qui se sont mêlés à ça. Une fois que le chaos prend, les manifestants professionnels, effectivement, là, ouais. Les casseurs professionnels, là, on les retrouve assez rapidement. Fait que c'était une scène désolante. À travers ça, c'était presque irréel, c'est que quelques minutes avant que la population ou les gens qui manifestaient entrent au Capitole, ben la personne qui parlait à l'intérieur du Sénat américain, parce qu'il y avait quand même un événement politique important, puis on pourrait y revenir dans quelques secondes, ouais. Qui se déroulait, ben c'était Ted Cruz. Ted Cruz, c'est un Trumpiste, et lui, c'était quand même assez incroyable son discours, parce qu'il disait, même si on n'a pas de preuves, l'élection a été truquée. C'est ce genre de propos-là qui a vraiment là, alimenté la haine, alimenté la pensée que l'élection a été une tricherie, a été un trucage incroyable, puis du côté des républicains ou de ceux-là qui croient que l'élection a été truquée, on n'arrive pas justement à le prouver. Les cours américaines, les cours de justice américaines ont rejeté, là, peu importe l'État où est-ce que les partisans de Trump se sont essayés, ont rejeté, puis facilement, là, sans qu'il y ait vraiment là, de grands jugements décrits, ont vraiment rejeté là, toutes les demandes de recomptage ou quoi que ce soit. Donald Trump, qu'on entend parler au téléphone avec un représentant républicain en lui disant « By the way, t'es capable de me trouver 11 000 voix pour réussir à renverser la majorité », c'est des propos incroyables là, ouais. Venant d'un président. Puis c'est ça qui est aussi qui est dommage, au niveau des Trumpistes, leur chef, il est président des États-Unis, ça, d'une certaine manière, ça lui donne tous les droits, mais en même temps, au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, au niveau de qu'est-ce qui va rester de sa présidence, c'est ça là, qu'on doit déplorer.
Ouais. Quelles sont maintenant les options pour la démocratie américaine? On parle beaucoup de la destitution de Donald Trump. Il y a des gens qui se posent la question, mais il lui reste 2 semaines de règne. Quel serait l'impact? Il y a des gens qui disent, mais si on amorce le processus présentement, ça va l'empêcher de se représenter dans 4 ans, parce que semble-t-il que ça serait dans ses intentions. Donc, c'est quoi la suite des choses maintenant?
Au niveau de la destitution, ça me semble peu probable. Puis même surtout que pour Donald Trump, il lui reste 2 semaines à peu près, le 20 janvier prochain, ce sera vraiment l'assermentation du nouveau président Joe Biden. C'est sûr qu'au niveau des délais, les délais on va les outrepasser parce que on n'a pas assez de temps. Ouais. Puis je me questionne sur la légalité de demander la destitution, la démission d'un président alors qu'il n'est plus en fonction. Donc, ça serait très théorique. Si on dépasse le 20 janvier de poursuivre une procédure de destitution, même si on dit mais s'il veut se présenter dans 4 ans, dans 4 ans, ce sera dans 4 ans, puis on verra. Donc, ce côté-là, je pense qu'on doit vraiment l'éliminer parce que il mènera à rien. On va frapper un mur éventuellement. Puis, de toute façon, vous avez vu, Donald Trump a quand même résisté à une destitution. Donc, c'est une histoire d'avocat là-dedans, puis on finit par ça devient des technicalités là, judiciaires, juridiques là, très pointues, puis finalement pour une question d'un document mal rempli ou peu importe la raison, on finit souvent là par abandonner la chose. Non, je pense que les États-Unis doivent vraiment se tourner ailleurs, c'est-à-dire vers Joe Biden et réconcilier le pays. Il faut absolument que Joe Biden ait un message, puis jusqu'à maintenant, je pense que c'est l'homme de la situation pour le peu qu'on ait vu, c'est-à-dire de rassembler le pays, d'avoir un discours beaucoup moins partisan. Là, actuellement, les Américains sont vraiment divisés entre, j'allais dire républicains et démocrates, mais ça fait des années, mais républicains vraiment crinqués et le reste du pays, puis ça finit par se... où est-ce qu'on entend dire... moi, je suis un vrai Américain, puis l'autre, c'est pas un vrai Américain. C'est malsain pour une société. Donc, avant d'être républicain, avant d'être démocrate, il faut que les États-Unis, que la population redevienne américaine, point à la ligne, avec en retrouvant donc ses points d'ancrage traditionnels, ses valeurs, ses éléments identitaires. Il y a vraiment un bon brassage là, de valeurs à faire, de discussions, puis de cesser cette partisanerie-là à outrance. Auparavant, on vantait les Américains, le système américain, parce que il n'y avait pas tant de partisanerie que ça. Un républicain pouvait voter, disons un élu républicain, donc au Sénat ou bien à la Chambre des représentants, pouvait voter pour un projet de loi émanant d'un président démocrate, et l'inverse pouvait être véridique, c'est-à-dire qu'un démocrate pouvait voter contre le projet de loi d'un président démocrate. Là, c'est complètement à l'inverse, c'est polarisé. C'est les démocrates d'un côté, c'est les républicains de l'autre. La population est vraiment là fracturée entre les deux. Elle est vraiment scindée en deux. Puis, on peut pas non plus rejeter les 70 millions de votes de Donald Trump. Là, quoi qu'on en dise, souvent, l'analyse va se terminer en disant, c'est pas vrai que les Trumpistes adoptent ou adhèrent à toutes les théories de Donald Trump, ils vont adopter un point puis ils vont laisser faire le reste. Mais il reste que, à travers ça, c'est 70 millions d'Américains qui ont quand même, à ce moment-là, pensé ainsi.
Ouais.
C'est là qu'il faut vraiment, là, comme je le disais tantôt, là, réconcilier les États-Unis parce que ça peut pas continuer comme ça. Et quand je vous dis ça, on en a pour des années, là. Moi, je pense que le mandat de Joe Biden, c'est juste un mandat de transition pour apaiser le climat politique, le climat social aux États-Unis. Puis ça sera dans 4 ans là, que on passera le vrai test. Si Joe Biden a réussi à apaiser un petit peu la situation, mais à un moment donné, là, il faut s'apercevoir que quand ça brasse trop, il faut se remettre sur ses pieds puis se remettre à penser en termes de collectivité.